Aujourd'hui, nous recevons donc le professeur Michel Maffesoli, qui est docteur en sociologie, docteur en sciences humaines et en lettres. Il est professeur de sociologie à l'Université de Paris 5. Il dirige le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Il dirige aussi le Centre de recherche sur l'imaginaire à la Maison des sciences de l'homme. Il est spécialiste de la postmodernité et de la sociologie de la vie quotidienne. Parmi les prix qu'il a reçus, on peut citer le Grand Prix des sciences humaines de l'Académie française, reçu en 1992 pour son ouvrage « La transfiguration du politique ». Et vous pouvez retrouver ses idées dans ses nombreux ouvrages, 14 environ, en particulier « Le temps des tribus », qui est paru au livre de poche en 1991, « Du nomadisme, vagabondage initiatique », paru aussi dans le livre de poche en 1997, et enfin, publié récemment, « L'instant éternel, le retour du tragique dans les sociétés postmodernes », sorti chez De Noël dans la collection Essai en février 2000. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Bien, je vous remercie, ça fait beaucoup de choses tout ça. Et puis quand on voit ce vaste programme, la manière dont tout cela est relayé, comme l'on dit, c'est même pas l'université de tous les savoirs, c'est la fringale de tous les savoirs. En tout cas, c'est plaisant, c'est tranquillisant, à moins que ça dénote justement, et dans le bon sens du terme, bien sûr, une forme d'inquiétude. On est travaillé par quelque chose, c'est-à-dire essayer de comprendre, bien évidemment, ce que l'on vit, comment on le vit, etc. En tout cas, pour ma part, le titre, et je l'avais accepté puisqu'il m'a été proposé, je l'avais accepté à la fois comme un défi, mais en même temps, ça correspondait bien à ce que j'entendais dire. Les groupes, c'est un titre général. Comment peut-on penser, et dans le fond, c'est une vraie question, comment peut-on penser ce que, un peu simplement, on peut appeler l'être ensemble, hein, ce qui fait qu'à bien des égards, on arrive à convivre en un lieu et en un temps donné. Et il est bien évident que, justement, ce qui fait la liaison pour cet être ensemble peut changer de nom, en tout cas peut varier. Et de ce point de vue, ce titre, les groupes, peut être d'une manière provisoire, justement, le fait de prendre en considération, et en tout cas, ça sera l'objet de ma causerie ce soir, le fait que, dans le fond, il y a eu une manière d'être ensemble qui s'est constituée. Cela se fait difficilement, d'ailleurs, cela se fait lentement. Et puis, peut-être, moi, c'est mon hypothèse centrale depuis de longueurs années, eh bien, il y a une autre manière d'être ensemble qui serait là, en train de se constituer. Et là, le terme de groupe, après tout, serait un terme un peu passe-partout, mais qui, dans le fond, nous laisserait justement la liberté de penser. Il est des moments, là encore, pour partir de choses assez simples, dans le fond, que où ces évidences qui nous constituent, moi, je dirais ces évidences qui constituent la culture dans le sens fort du terme, dans le sens que je viens de dire, ce qui fait qu'il y a du ciment, qui fait que ça tienne, eh bien que ces évidences sont remises en question et donc deviennent poreuses, deviennent discutables. Tant que ces évidences ne sont pas remises en question, la culture est ce qu'elle est, on la vit. Et on ne s'interroge pas sur la manière dont cette culture est vécue, cette culture est représentée, cette culture est organisée. Mais je crois que nous sommes justement à un de ces moments de remise en question, prenons ce terme dans le sens simple du mot, et voir de quelle manière il nous oblige bien sûr à penser. Et c'est dans le fond, même si bien évidemment on n'arrive pas à donner un sens précis. Moi, je ne suis pas certain qu'on soit à un moment où il est possible de conceptualiser d'une manière précise un certain nombre de choses, mais même si on n'arrive pas à lui donner un sens précis, le terme de crise caractérise bien justement la perte de ces évidences, de ces choses que l'on a intégrées sans bien y faire attention et qui nous constituent individuellement ou collectivement pour ce que l'on est. Crise, si vous voulez, qui est un mot, encore une fois, un mot copule, parfois un mot bien creux, mais qui, dans le fond, ne peut pas se réduire à ce que, un peu trop souvent, un peu trop rapidement, un peu trop simplement, on le réduit, à savoir ce qui serait simplement une crise économique, une crise culturelle ou une crise religieuse. Non, il y a quelque chose certainement de plus profond qui est en jeu, et si tant est que le passage à un nouveau millénaire puisse signifier quelque chose, autre part que dans le petit canton du monde qui nous caractérise, moi je dirais que s'il signifie quelque chose, ce passage à un nouveau millénaire, c'est bien justement ce passage crisique de quelque chose à quelque chose d'autre. Moi je dirais que la crise, enfin la seule définition que je me suis permise là-dessus, c'est de dire que dans le fond, c'est un moment justement où un ensemble social n'a plus conscience de ce qu'il est, fondamentalement. Et dès lors, n'a plus confiance en ce qu'il est. Et il y a là un va-et-vient qu'il convient de bien repérer. La conscience, c'est encore une fois l'histoire que tout un chacun et un ensemble donné va se raconter sur lui-même. Chaque époque a une histoire qu'elle se raconte, qui la tranquillise, qui rationalise, qui légitime ce qu'elle est. On peut parler et penser à la mythologie, bien sûr, dans l'Antiquité, on peut penser à la théologie au Moyen-Âge, on peut penser à la philosophie en d'autres époques, eh bien, et on peut éventuellement passer aux diverses formes d'idéologie qui ont constitué la modernité, 18e, 19e, certainement jusqu'aux années 50 ou 60 de ce siècle, mais cela est une histoire que l'on se raconte. Je dis bien, les sociologues disent rationalisation, légitimation de ce que l'on est. Et à mon sens, c'est un peu cela qui, même si cette expression ne se fait pas d'une manière brutale d'ailleurs, c'est plutôt en termes de nébuleuse en quelque sorte, eh bien il me paraît qu'il y a, il n'y a plus conscience en quelque sorte, avec du coup la mise en question par rapport à la confiance. Ce qui a toute une série de conséquences, bien évidemment, alors là très pratiques, très empiriques, là dans notre vie quotidienne. Et nous sommes en quelque sorte confrontés régulièrement aux conséquences de cette perte de conscience et de confiance. Et tout ce qu'on peut souffrir, là, empiriquement, pour moi, n'est qu'une expression de cela. Donc, nécessité, bien évidemment, de repérer ce qu'il en est de ce que je viens d'indiquer, et dès lors, trouver les mots qui soient les moins faux possibles, les mots pertinents. J'indique par là, pour dire, pour recréer une histoire, pour se raconter encore une fois ce que l'on est. Je dis cela dès à présent, peut-être n'aurais-je pas le temps de les développer, mais juste pour indiquer qu'à mon sens, nombre de mots, je fais exprès de rester le plus vague possible, nombre de mots par lesquels on dit notre société ne me paraissent plus pertinents. Dans le sens scientifique du terme, ils sont véritablement impertinents. Ils sont en décalage, en déphasage, d'où la nécessité, bien évidemment, de faire un vrai travail de fondation et, encore une fois, créer, sinon des concepts, à tout le moins des images, des métaphores permettant de rendre compte de cela. Alors, comment trouver ces mots ? Mes hypothèses pour ce soir, en trois temps, d'une part, montrer justement comme l'on est tributaire de cet esprit du temps, hein, de ce que j'appelais il y a un instant l'histoire qui nous constitue en un moment donné, voir comment, deuxièmement, voir comment cet esprit du temps s'est constitué pour la modernité, hein, les deux, trois siècles qui viennent de s'écouler, moi, à mon avis, qui s'achèvent maintenant, et dans un troisième temps, qu'est-ce qui serait justement comme valeur culturelle à l'état naissant dans ce que certains, et moi je suis du nombre, appellent la postmodernité. Et prenons ce terme dans le sens simple du terme, donc ce qui arrive après ce qui a caractérisé en quelque sorte les temps modernes. Alors, tributaire d'un esprit général. Banalité, mais qu'il est comme toujours, et comme souvent pour ce qui concerne les banalités, nécessaire de rappeler, un peu cette idée hegélienne de l'esprit du temps. Hein, qu'est-ce qui fait qu'à bien des égards, là où l'on croit penser par soi-même, l'on est pensé. là où l'on croit agir, on est agi, et toute chose à l'avenant. Hein. Une inversion de cet ordre qui, finalement, délimite ce que j'appelais tout à l'heure, je disais en son sens strict, la culture. La culture, prenons-le simplement, ce qui fait terreau, ce dans quoi va s'enraciner les représentations, les manières de penser et les manières d'être sociales qui sont les nôtres. Puisque j'interviens un peu aussi comme sociologue, je rappelle qu'un des grands fondateurs de la sociologie française, Durkheim, a mis l'accent là-dessus, sur ce qu'il appelait, en son sens strict et étymologique, les caractères essentiels d'une époque. C'est-à-dire, et humaniste qu'il était, caractère pour lui renvoyait bien à ce qu'était l'empreinte structurelle, l'empreinte de fond, hein, comme le caractère et ce qui marque un individu, eh bien, il montre bien que peut exister des caractères essentiels qui détermineraient cet esprit du temps, hein, qui, encore une fois, qui nous ferait plus que nous le faisons. Je donne ici deux ou trois termes que je cite souvent à mes étudiants pour bien leur faire comprendre l'importance justement de ces représentations, hein, qui ne sont pas simplement des simples superstructures comme cela que l'on peut négliger ou révoquer à loisir, mais qui sont, à mon sens, si je le dis d'une manière un peu jargonnante, qui sont structurantes. Je pense ici, bien sûr, à la formule que proposait Michel Foucault, un des grands penseurs de ce temps, et qu'il avait appliqué, lui, pour la modernité. Il avait bien montré comment, justement, le monde bourgeois bien, s'était élaboré progressivement autour de ce qui... Enfin, cause et effet, bien sûr, de ce qu'il appelait l'épistémé. Et l'épistémé, dans la perspective foucauldienne, puisqu'il prend ce mot alors qu'il a à sa disposition, issu du grec, le mot épistémé, qui renvoie à la connaissance, bien sûr, mais il aurait pu prendre le mot théoria, théorie, qui est, lui, renvoie à une connaissance qui serait une connaissance pure. Et Foucault, en prenant l'épistémé, et dans Archéologie du savoir, l'a bien précisé, c'est tout à la fois, justement, la manière dont on va représenter le monde et l'organiser, hein, cette espèce de double face du terme. Et il montre bien comment s'est constitué l'épistémé moderne ou l'épistémé bourgeoise, enfin peu importe, l'épistémé des temps modernes, tel que cela, sur deux ou trois siècles, s'est élaboré. Dans l'histoire des sciences, un historien réputé, philosophe historien réputé, récemment décédé, Thomas Kuhn, élabore à peu près un terme identique, enfin en tout cas qui désigne quelque chose qui est proche. Il parle du paradigme. Le paradigme pourrait être traduit véritablement comme étant, bon, c'est le modèle, mais on pourrait même aller plus avant et dire que c'est en quelque sorte une matrice, hein, quelque chose qui fait qu'il y a à tel moment telle découverte qui n'a pas pu être avant, telle découverte scientifique ou technologique. Et Thomas Kuhn insiste bien sur cette notion de paradigme en montrant justement la pertinence, en montrant, vous voyez, qu'on ne peut comprendre encore une fois une société que si on se réfère à cette matrice. Où va naître, où va croître, hein, où va donc à un moment donné aussi peut-être disparaître une manière d'être. Souvenons-nous bien sûr aussi de la grande idée freudienne, celle d'infrastructure mentale. Là encore, peu importe le terme, si on le prend ici d'une manière métaphorique, mais se rendre compte qu'existe quelque chose, si vous voulez, que l'on ne voit pas forcément et qui fait ce que nous sommes. En termes imagés, l'inconscient collectif de Jung, même si cela peut être controversé, à mon sens, renvoie à quelque chose de cet ordre. Si je le dis d'une manière beaucoup plus imagée, ce qui pourrait être une nappe phréatique, qui va sustenter quelque chose, qui va faire qu'à bien des égards, il y ait de la faune, de la flore, il y ait de la vie. Bien, vous voyez, ce pour dire que il est important, c'est ça l'esprit du temps dans le sens hegelien. C'est ça l'histoire dont je parlais tout à l'heure. C'est ça ces évidences, ce sont ceux-là ces évidences qui, bien sûr, sont nécessaires, même si on ne voit pas ce qu'elles sont, et qui pourtant, encore une fois, nous constituent, nous sustentent, un peu comme cette nappe phréatique. Donc, vous voyez, on pourrait gloser plus longuement là-dessus, mais soyez attentifs, et c'est pour cela que j'insiste un tout petit peu, sur, encore une fois, le fait que existe dans le fond un roi clandestin qui régit une époque. Et comme tout roi clandestin, il est parfois antinomique, bien évidemment, à ce qui est le pouvoir établi. Donc en ce sens, pour moi, toutes ces notions, et on pourrait en trouver bien d'autres, bien évidemment, renvoient à la nécessité, je dirais, de penser le réel à partir de ce qui est réputé irréel. Les imaginaires, les symboliques multiples et divers, qui encore une fois nous travaillent parfois à notre corps défendant et qui pourtant nous constituent, je dis bien individuellement et collectivement, pour ce que nous sommes. Alors, quel pourrait être, justement, peu importe lequel des termes on puisse ici retenir, quel a été l'épistémé de la modernité ? Je dis bien, quand je dis modernité, j'entends par là, je l'ai dit incidemment il y a un instant, les 2-3 siècles qui viennent de s'écouler, peu importe en la matière. Nombre de penseurs se sont interrogés là-dessus. J'ai dit Michel Foucault, Gilbert Durand, un anthropologue contemporain, Thomas Kuhn à sa manière, vous voyez, c'est-à-dire que finalement, les choses, un peu à la manière cyclique, même si cette image ne me convient pas tout à fait, un peu à la manière cyclique, quelque chose qui va naître et fonctionner pendant 2-3 siècles. Il y a variation là-dessus. Et pour ma part, je ne m'attache pas vraiment à la temporalité précise, mais repérons que sur une longue durée ou une moyenne durée, il y a une manière de se penser et de s'organiser qui est assez commune à tout un chacun et que d'ailleurs, assez curieusement, on va retrouver un peu partout de par le monde. C'est ça. Et la notion d'esprit du temps de Hegel est à cet égard intéressante. Alors, dit rapidement et crûment, et ce serait ici mon premier point ainsi que je l'annonçais, l'esprit du temps de la modernité s'est constitué autour d'une conception assez homogène du monde. Quelque chose qui va en quelque sorte repérer dans tous les domaines un plus petit dénominateur commun. Et je rappelle à cet égard une formule assez peu d'ailleurs utilisée et assez peu analysée curieusement par les sociologues, une formule d'Auguste Comte, donc là aussi un des pères fondateurs de la sociologie, réfléchissant sur la société à la fin du siècle, au siècle dernier, et donc réfléchissant sur la discipline qui était censée en rendre compte, il a cette formule qui est une formule d'homogénéisation. Il parle de la reductio ad unum, c'est-à-dire le fait que toute chose puisse se résoudre à l'unité. Résoudre chaque chose, réduire même, en fait, le mot résoudre, c'est pas ça, c'est réduire. La reductio ad unum, c'est bien ce processus de réduction. Et moi, je trouve que c'est une formule slogan à sa manière géniale, parce que, même si, bien sûr, je dis bien, c'est une formule slogan, mais elle délimite bien ce qui a permis que se constitue progressivement, justement, cette modernité, les temps modernes. Vous comprenez ? Pour moi, ce qui déjà est en voie de dépassement. Mais dans le fond, c'est l'unité, c'est l'un. Et cet un, on va le voir en quelque sorte transversalement, un peu partout, dans tous les domaines de la vie sociale. Et bien évidemment, avant toute chose, cet un, cette unité, le fait qu'il y ait un plus petit dénominateur commun, il y aurait plusieurs manières de le montrer. Moi, j'en indique tout d'abord une qui me paraît essentielle, c'est-à-dire, dans le fond, la constitution, et même si ce détour peut paraître un peu philosophique, il me semble important, la constitution de l'individu comme étant justement une unité. Avant, ce n'est pas le cas dans les sociétés traditionnelles. Il est possible, j'y reviendrai, qu'après, ce ne le soit plus. Mais disons que, vous voyez, pour là utiliser une image, je dirais que l'individu, en tant que quelque chose qui est un, l'individu qui a une identité, l'individu qui peut être repérable, eh bien, cela va être en quelque sorte le pivot de la modernité. Le pivot à partir duquel va se constituer ce que j'appelais il y a un instant l'épistémé moderne. Là, très rapidement, sans faire, bien sûr, il n'est pas possible de le faire une étude approfondie, mais là, une rapide généalogie, trois mots, trois noms, trois moments. Tout d'abord, bien sûr, la grande perspective cartésienne, qui va en quelque sorte le cogito ergo sum, ce que nous gardons encore de nos souvenirs d'école ou de lycée, c'est-à-dire le fait que, à bien des égards, l'individu va, et c'est ça qui est important, va penser par lui-même. Par avant, et là-dessus, c'est chose évidente, si vous voulez, l'individu ne peut penser que dans un cadre communautaire. Il y a un savoir qui est un savoir collectif. Au mieux, on peut, à sa manière, redire le savoir collectif. Mais dans le fond, il y a vraiment là une révolution cartésienne, et moi je pense que c'est l'acte de naissance véritablement de la modernité. C'est-à-dire quand on va constituer le sujet comme étant capable de penser. Je dis bien, avant, il y a pensée collective, organique, etc. Mais là, une vraie césure, hein, c'est-à-dire que je, dans le fond, je me coupe de l'autre en pensant par moi-même. Et bien sûr, c'est cela même qui fonde, à bien des égards, le libre examen moderne. C'est ce qui fonde la vraie efficacité de ce que va être la modernité. C'est ce qui fonde ce qu'on a pu appeler la via recta de la raison, hein, cette voie droite qui va droit au but, qui en quelque sorte a une efficacité que l'on sait. Et il est facile d'ailleurs de rappeler que c'est, je dirais, à partir de cette source-là que l'on peut bien évidemment comprendre ce que fut le grand développement scientifique et le grand développement technologique. Et nombre d'historiens des idées montrent bien que c'est justement dès le moment où l'on va mettre l'accent sur la raison. La raison en ce qu'elle a d'efficace, dans ce qu'elle a de direct. Et là, je dirais que, voilà, on a un acte de naissance très fort dans ce cogito ergo sum cartésien. Bien sûr, la deuxième scansion est religieuse, hein, toujours une manière de se rapporter au sacré, et c'est la réforme. Là encore, qu'est-ce que la réforme, au-delà ou en deçà, bien évidemment, de ce que pourraient être les différences doctrinales qui vont la fonder en tant que telle, d'ailleurs par rapport au catholicisme lui-même, ou à l'intérieur même de la réforme, entre les diverses églises qui en sont issues. Mais fondamentalement, là, le dénominateur commun de cette réforme, c'est bien l'individu. C'est-à-dire celui qui est capable de lire la Bible, de lire le livre, de gérer le sacré. Préalablement à cela, le texte sacré était lu collectivement. Il y avait quelque chose qui en faisait une lecture ecclésiale. Là encore, c'est le libre examen. Et la Bible traduite en langue vernaculaire, c'est quelque chose qui, à mon sens, indique bien, je dirais, un acte de naissance, dit, encore une fois, si je trouve une scansion rapide, à côté de l'acte de naissance philosophique, un acte de naissance religieux qui va poser, qui va, en quelque sorte, structurer ce pivot essentiel qu'est celui de la modernité. Et le troisième, je prends ces trois noms, donc Descartes, Luther, le troisième, qui aurait une conséquence philosophique que l'on sait, je dis Rousseau, peu importe, disons un acte de naissance politique, c'est-à-dire ce qui fait que, là encore, c'est l'individu en tant que tel qui vaut en tant que tel, et non pas par rapport à d'autres, non pas par rapport à la communauté. Je rappelle à cet égard toujours les deux livres paradigmatiques pour moi de la modernité, qui sont « L'Émile » et « Le contrat social ». L'Émile, c'est en effet la constitution de l'individu en ce qu'il peut être autonome politiquement. On le tire en quelque sorte, le petit enfant est barbare, animal, instinctif et instinctuel. On va le tirer de cette situation qui est là, qui est de l'ordre de l'animalité. On va le tirer vers la civilisation et tout l'Émile, tout ce livre qui va en quelque sorte fonder avec l'influence qui a été la sienne et qui est loin d'être négligeable, qui va fonder toute la philosophie pédagogique moderne, repose essentiellement sur cette fonction éducative, educare, tirer de vers quelque part. Mais, et dans le fond, pour moi, le maître mot de l'Émile, si vous voulez, l'idée qui résume à bien des égards et qui systématise ce que j'ai dit philosophiquement et religieusement, eh bien, c'est la notion d'autonomie, c'est-à-dire l'individu qui est sa propre loi. Et en son sens étymologique, ce à quoi doit aboutir une bonne éducation, dans le sens que je viens de dire, eh bien, c'est quelqu'un qui est capable d'être sa propre loi, donc d'agir par lui-même à partir de ce que rationnellement il s'est fixé comme étant un impératif là moral ou un impératif de vie en société. Et je rappelle que c'est justement au bout de ce processus éducatif, au moment où l'individu est autonome, maître de lui, et on pourrait trouver à cet égard nombre de formules poétiques, dramatiques, qui essaient d'en rendre compte, mais c'est quand il y a cette possibilité de maîtrise de sur soi, eh bien qu'il y a contrat social. Le thème même du contrat social, c'est justement l'association volontaire et rationnelle d'individus autonomes qui, étant capables de gérer leurs propres existences, eh bien donc sont capables de rentrer en contrat avec d'autres individus pour justement faire l'histoire de la société, mais uniquement dès le moment où, bien évidemment, je suis capable de faire ma propre histoire. Et on a là, moi je dirais, quelque chose qui est un peu l'aboutissement de ce long cheminement fondant la modernité. Je dis bien, hein, dit à la cavalière là-dessus, hein, mais je pense donc je suis cartésien. Le libre examen du texte sacré et la gestion du sacré à partir de la réforme, et puis cette autonomie, je dis rousseauiste, mais on pourrait le voir bien sûr en gestation et même parfois affirmé dans la philosophie des Lumières, mais Rousseau, je dirais, autour de ces deux livres, résume en quelque sorte la grande idée du contrat social. Et dans le fond, la grande idée du social, d'un social qui dès lors va être mécaniquement gérable, rationnellement organisable, prédictible, hein, c'est-à-dire d'un social qui est société. Avant, c'est autre chose. Avant, il y a une autre manière d'être ensemble. Là, je dis bien, hein, je dis mécanique, prédictible, rationnel, eh bien, cet être ensemble va réellement, ou tendanciellement, ou comme tension, ou comme idéal, ou comme désir, mais dans le fond, on est tendu vers un but de cet ordre. Et c'est ça, la société, par rapport, bien sûr, à d'autres structures préalables à la modernité, par rapport à la communauté, par exemple, et c'est ça le contrat social, et on a toute une série de termes, si vous voulez, dans la philosophie du XIXe siècle, qui vont en quelque sorte traduire ce contrat social. Hein. Un être ensemble rationnel, un être ensemble mécanique, etc. Alors, cela s'exprime, je donne trois termes qui en rendent compte, à partir de ce pivot, à partir de la constitution de cet individu, tel que je viens de le dire. Eh bien, à partir de là, s'élaborent, bien évidemment, ces grandes machineries sociales. J'ai cité tout à l'heure Foucault, je rappelle et je considère que Foucault est, à bien des égards, au-delà de l'aspect épistémologique qui est le sien, est certainement celui qui a su le mieux faire la généalogie de la modernité. Et en particulier, parce qu'il a bien montré comment se constituaient justement ces institutions sociales. On pourrait même dire comment se constituait le social. Je tiens à insister là-dessus. Le terme même de social est un terme qui est nouveau, en tout cas qui n'est pas éternel et dont on voit les contours à partir du XIXe siècle. Et les expressions, dans le sens simple du terme, hein, comme on exprime le jus d'une orange, les expressions de ce social, eh bien, ce sont ces machineries. Il y en a de nombreuses, mais les partis politiques, voilà une expression du social. C'est-à-dire que dans le fond, des gens s'associent dans des machineries partisanes, quelle que soit à cet égard l'idéologie qui les lie, mais pour arriver à un but, pour parfaire, pour corriger, pour conforter une manière, une conception que l'on a de la vie sociale. Les syndicats pour le monde du travail, les associations en d'autres lieux, les institutions en leur sens large. Et là-dessus, Michel Foucault a bien montré comment s'élaborer, et vous aurez, j'ai vu d'autres conférences en ce sens dans les jours qui viennent et qui me paraissent intéressantes, qui montrent bien effectivement comment ce qui nous paraît éternel est né à un moment donné. Et donc, dès lors, comme toute chose, si vous voulez, humaine, est peut-être appelée à laisser la place à autre chose. Mais les grandes institutions familiales, les grandes institutions de la santé, les grandes institutions éducatives, les grandes institutions de la prison, etc., peu importe. Hein, et là-dessus, je vous renvoie, vous peut-être les connaissez-vous, aux travaux que j'ai dit de Michel Foucault ou de son école, qui ont bien montré en quelque sorte comment s'élaborer ces choses stables. L'institution, c'est ça. C'est quelque chose qui est établi. encore une fois, une manière d'être ensemble, une manière de vivre la vie sociale au travers des catégories que j'indiquais il y a un instant. Alors voilà, hein, ce serait cela mon premier point, voilà en quelque sorte comment s'est élaboré ce que j'appelais tout à l'heure, si vous y avez été attentif, une homogénéisation de la société. Comment s'est élaboré à partir du pivot individuel, hein, la réduction à l'unité. Comment s'est mis en place le parti, les syndicats, les institutions, l'État-nation, etc. Hein, toute chose, encore une fois, qui, dans le fond, et c'est cela qui est en jeu dans l'homogénéisation, va évacuer les disparités, les différences, les particularités, toute chose qui, en fait, ne rentre pas en compte dès le moment où on veut réduire l'être ensemble au plus petit dénominateur commun. Voilà. Et il me semble, voyez-vous, et là-dessus, hein, sur ce schéma, moi je le dis à ma manière, mais il y a type d'accord multiforme, je dirais, théorique, philosophique, psychologique, sociologique, historique, il y a, je dis bien, accord avec des différences, des nuances en fonction de la tendance théorique, mais globalement, on repère bien comment cette homogénéisation, même si ce n'est pas le terme qui est employé, s'est mise progressivement en place. Alors, pour ce qui concerne la seconde partie, mon hypothèse, moi, et là, on n'est plus, je dirais, dans l'ordre de la discussion théorique, mais je ne sais pas comment dire, plutôt dans l'ordre du constat, en tout cas pour ma part, c'est une espèce de constat empirique que je propose, rassemblant une série d'indices que chacun d'entre nous peut observer dans sa vie. Mais le débat, là, est en cours. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver les mots les moins faux possibles pour décrire une situation que nous vivons. Tant entendu que peut-être les mots qui ont été élaborés justement au moment de l'homogénéisation ne sont plus, disais-je, des mots pertinents ou qui soient en congruence avec l'état de la société. Alors, au niveau du constat, être prudent tout de même. Moi, vous voyez, en même temps, il a été un moment dans le débat intellectuel, en particulier d'ailleurs dans le débat français, énormément dans le débat structuraliste autour des années 60, où il était fréquent, d'une manière assez tranchée, de parler de la fin, justement, de quelque chose. Hein, la fin de Dieu, la fin de l'homme, la fin de ceci. Et dans cette foulée, si vous voulez, il y a eu aussi, bien sûr, la fin du social. Moi, je considère que c'est un péché mignon qui un peu caractérise notre manière de penser un peu trop occidentale. Hein. Il y a une création du monde, il y aura une fin du monde. Vous voyez, des choses comme cela, alors que d'autres cultures sont à cet égard beaucoup plus nuancées, voire beaucoup plus humbles, qui montrent que tout à la fois, il y a bien sûr de l'impermanence, mais qu'il y a toujours de nouvelles recompositions qui peuvent se faire, quoi qu'il y ait, ou à partir, ou grâce à cette impermanence. Et pour ma part, je me situerai plutôt dans cette sensibilité théorique. Le terme que j'emploie fréquemment, à mon avis, le terme peu utilisé, et je le regrette dans le débat intellectuel, c'est le terme proposé par un sociologue américain qui s'appelle Sorokin et qui parlait de la saturation. Et il le disait pour les œuvres de la culture, montrant en quelque sorte comment justement des ensembles culturels, des valeurs culturelles, qui avait fonctionné ainsi que je l'indiquais il y a un instant sous des formes d'évidence, c'est ainsi, on vit ainsi, on a ses valeurs, on a ses représentations, on a ses manières d'être, et bien comment, à un moment donné, perdait de cette évidence, hein, le mot que j'employais, elle devenait poreuse. Et à bien des égards, c'est cela qui entraîne donc l'attitude crisique auquel je faisais référence. Mais l'idée de saturation est intéressante, voyez-vous, parce que tout à la fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destruction et en même temps de la construction. Et on retrouve là une vieille préoccupation, je dirais, des humanités, une vieille préoccupation, je dirais, d'une manière même peut-être plus large, une vieille et généreuse préoccupation humaniste qui tout à la fois repère qu'il y a une pars d'instruens en toute chose, mais que dans le même temps, il y a une pars construens hein, et que, après tout, détruire peut permettre justement d'élaborer quelque chose de nouveau. Et la notion de saturation, c'est cela. Prendre acte du fait que des éléments composant un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, hein, saturation chimique, et en même temps recomposition, à partir d'ailleurs de ces mêmes éléments, d'une autre constellation, d'une autre manière d'être ensemble. Alors voyez, c'est un peu cela que j'aimerais dire ici, c'est-à-dire ce que l'on appelle la crise, saturation donc de cet être ensemble dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, autour du pivot individuel, autour des grandes machineries institutionnelles qui sont encore existantes, mais dont on peut se poser la question quant à la solidité. Encore sous forme imagée, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer a cessé d'être, et pourtant la lumière continue d'être là. Eh bien, je dirais que c'est un peu peut-être quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que ces institutions qui apparemment sont assez solides peuvent être comme des colosses au pied d'argile, et une pichenette peut les faire s'écrouler rapidement dès le moment où elles sont pourries ou à tout le moins totalement fatiguées en leur intérieur. Et pour moi, c'est un peu cela, la saturation. C'est-à-dire que, à bien des égards, la grande idée moderne, que j'ai dit être la grande idée de l'unité, laisse la place ou relaisse la place à autre chose qui a déjà existé et qui peut-être reprend force et vigueur ici, qui est l'idée d'hétérogénéisation. Alors, autant ce serait l'homogénéisation, l'un, qui caractériserait, ainsi que je l'ai indiqué, la modernité, autant cette postmodernité naissante, si on emploie ce terme en son sens simple, eh bien, se caractériserait par un processus de fragmentation, d'hétérogénéisation galopante. Essentiellement, si je reprends le même schéma que je posais il y a un instant, essentiellement, bien évidemment, concernant l'individu. Et là, je considère que c'est une tarte à la crème. Moi c'est mon leitmotiv. Je ne suis un militant de rien et je n'ai que très peu de convictions, sinon aucune. Mais théoriquement, il en est une, moi, qui m'est chère, c'est le fait qu'on se gamberge en continuant à en parler d'individu ou d'individualisme. Actuellement, quand on ne sait pas que dire dans une analyse quelle qu'elle soit, journalistique, très souvent universitaire, à coup sûr politique, eh bien, on voit revenir là, tel un mot copule, tel un mot valise, tel un deus ex machina, comme le faisaient les dramaturges du XVIIe siècle, on voit descendre ce mot individu ou individualisme. Mais vide, finalement, ça ne correspond pas forcément, j'essaierai de le dire, à ce qui constitue justement la vie de nos sociétés. Mais bon, alors, pour tout dire, moi, je pense qu'il y a saturation essentiellement de ce pivot individuel et de l'individualisme théorique qui lui servirait de support. L'individu n'est plus le principe essentiel, qui a été, encore une fois, le grand principe moderne, mais je dirais que c'est plutôt le lien, c'est la relation, non plus le primum individuationis, mais le primum relationis. Et là, il y a un changement de polarité d'importance. Non pas, encore une fois, ce d'où part la relation, ce qui va fonder la vie sociale, le pivot A, l'individu, mais au contraire, le mécanisme qui me relie aux autres. C'est ça, le principe de relation et non pas le principe d'individuation. Voilà ce qui est ma thèse. Voilà ce qui, à mon sens, me paraît important, c'est-à-dire, dans le fond, c'est ce qui est à la base de la métaphore que j'avais proposée il y a une quinzaine d'années quand j'ai écrit ce livre sur le temps des tribus. C'est-à-dire, voir revenir curieusement cette chose que l'on avait cru dépasser, les tribus. La tribu dans tous les domaines. Or, le propre de la tribu, justement, en son sens simple, tel que les ethnologues le montrent, et dans le sens métaphorique qui est le mien, eh bien, c'est justement le fait que ce n'est pas, encore une fois, l'individu maître de lui et rationnel qui prévaut, mais bien l'ensemble dans lequel il va se perdre. L'ensemble qui va le constituer, pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment, le fait que c'est la tribu qui nous pense, ainsi que je le disais au début. C'est la tribu qui fait que là où je crois agir, eh bien, j'agis en fonction des espèces de pressions, bien sûr invisibles, qui me constituent pour ce que je suis. Vous voyez, c'est un peu cela, moi, qui me paraît qu'il faut penser. En tout cas, bon, moi, c'est mon hypothèse ou ma thèse. Je le livre à la réflexion, je le livre à la discussion. Ne continuons pas, à mon sens, à descendre, un peu tel le Deus Ex Machina, à descendre sur la scène sociale. Ce terme d'individu, dès le moment où dans tous les domaines on est confronté justement à ces curieuses lois de limitation qui me poussent à faire et à penser comme l'autre. Et là, c'est intéressant de voir comment un autre sociologue de la fin du siècle dernier, qui n'a pas eu le succès peut-être qu'il devait avoir, Gabriel Tarde, lorsqu'il écrit les lois de l'imitation, eh bien ces lois de l'imitation deviennent, à mon sens, une des réalités contemporaines. Loi de l'imitation, dans tous les domaines. C'est un processus transversal. Le tribalisme sectaire, le tribalisme culturel, le tribalisme musical, le tribalisme sportif, et tout à l'avenant, mais politique, intellectuel, et s'il y a discussion, je pourrais donner des quantités d'exemples en ce sens, voyez, encore une fois, peu importe le mot tribu. Je veux par là uniquement insister qu'il y a quelque chose qui repose sur, pour reprendre et extrapoler le terme goethéen, qu'il y a quelque chose qui repose sur les affinités électives, quelque chose qui n'est pas simplement rationnel, qu'il y a quelque chose qui va conforter le sentiment d'appartenance. Je dis bien, hein, une étrange pulsion qui me pousse à penser et à faire comme l'autre. Ce que, pour ma part, réfléchissant sur la mode, j'avais appelé le devenir mode du monde. Ça, c'est les lois de l'imitation. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui tend en quelque sorte à, là où il y avait de la séparation de l'individu, eh bien, qui me pousse en quelque sorte à coller aux autres. Et le maître mot pour moi de ce tribalisme, je dis bien, hein, mon propos n'est pas ici judicatif, et bien sûr, on voit bien, hein, pour le meilleur et pour le pire, les conséquences de ce que j'indique, mais il y a quelque chose qui va essentiellement reposer sur une forme de viscosité sociale, hein, quelque chose qui fait que, à bien des égards, je colle à l'autre, et dans tous les domaines, je fais un peu comme l'autre. Et l'introduction, si vous voulez, de ce néo-tribalisme multiforme, un des grands éléments... Eh bien, je ne dirais pas que c'est justement le dépassement de la raison. Vous l'avez compris, je disais tout à l'heure à propos de Descartes que c'est à partir justement de cette maîtrise de la raison que l'individu se pose par lui-même, qu'il pense par lui-même. Eh bien là, je dirais que ce qui est intéressant, en tout cas sociologiquement, ce qu'il est important d'observer et socialement ce qu'il est nécessaire de prendre en compte, eh bien c'est que, moi je dirais qu'à côté de la raison, on voit justement toute une série de paramètres humains importants qui reprennent en quelque sorte une actualisation. L'imaginaire, les diverses formes d'imaginaire. Le ludique sous ses diverses modulations, le festif, les jeux multiformes. L'onirique qui n'est pas cantonné à l'individu, mais qui est vécu collectivement. Vous voyez, même si bien sûr tout cela ne se dit pas en tant que tel, dans les grands mouvements festifs, dans les grands affoulements sportifs, musicaux et consommatoires, bien sûr que les acteurs ne disent pas « c'est mon imaginaire, c'est le ludique du groupe, c'est l'onirique que nous vivons en tant que tel ». Mais, vous voyez, je pense qu'il y a transversalement ces valeurs-là, je dis bien, je fais exprès de dire, ces paramètres humains qui, là, reprennent de l'importance, qui vont être en conjonction avec la raison. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit de l'irrationalisme, mais plutôt une confortation, un élargissement, un enrichissement de la raison telle qu'elle avait été vécue durant la modernité. Mais en tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'introduction de ces paramètres, eh bien, font éclater une simple conception rationnelle, une simple conception, encore une fois, mécanique de la société, les institutions. Et dès lors, si j'en viens au deuxième point de cette deuxième partie, eh bien, cette hétérogénéisation s'exprime, bien évidemment, par l'éclatement, la relativisation, d'une manière sanglante ou plus polissée, de ce qui était la grande idée politique de la modernité du XIXe siècle essentiellement, l'État-nation. C'est quand même intéressant, si vous voulez, de voir comment, dans les grands empires de l'Est, par exemple, ou dans de nombreux pays de par le monde, je dis bien, parfois d'une manière sanglante, eh bien, cette structure abstraite qu'était l'État-nation est en train de laisser la place, stricto sensu, là, aux affirmations tribales, en fonction de la religion, en fonction du territoire, en fonction de la langue, je vais tuer de l'autre. Dans des formes plus polissées, il suffit de voir un pays jacobin comme le nôtre, voir, bien évidemment, les réaffirmations, là, locales, s'exprimer. Et nous en avons ici de nombreux exemples, je le dis très rapidement. Mais il est des quantités de pays, si vous voulez, tant en Europe qu'un peu partout de par le monde, où l'on voit bien comment ce grand modèle de l'État-nation, qui était le prototype politique de la réduction au plus petit dénominateur commun, laisse la place à autre chose, à des affirmations locales. Moi, j'ai dit localisme multiforme. Éclatement des institutions. Là encore, là où les institutions étaient stables, hein, traduisant au niveau du contrat social cet individu maître de lui, eh bien, il y a fragmentation. Pour moi, le tribalisme en est l'expression. Dans tous les domaines, les grandes institutions religieuses, politiques, intellectuelles, dans tous les domaines, on voit justement ce que j'appelais il y a un instant la constitution de ces petites affinités électives. C'est ça le tribalisme, c'est pas autre chose. Hein. Quelque chose qui fait que dans le fond, on ne se rassemble pas rationnellement pour un idéal qui est lointain, mais on va vivre avec quelques-uns des émotions ici ou là, ponctuellement, au sein même des institutions. Vous voyez ? Encore une fois, les institutions en tant que telles peuvent continuer d'exister, mais on va les squatter, on va nicher au sein de ces institutions et constituer en quelque sorte ces petites entités que j'appelle tribus. Éclatement, enfin, des grands systèmes idéologiques, je pense ici au philosophe Jean-François Lyotard, qui avait bien montré en quelque sorte comme les grands récits de référence fondant la modernité laissaient la place à autre chose. Et cette autre chose, eh bien, moi je dis bricolage idéologique, idéologie portative, babélisation auquel on est confronté. Il n'y a plus ces grands systèmes de pensée qu'étaient le freudisme, le marxisme ou autres grands systèmes justificatifs assez tranquilles. Finalement, on se situait pour ou contre, mais on se situait par rapport à ça. C'est ça l'idée de Lyotard, récit de référence. Là, au contraire, chaque tribu va avoir sa petite idéologie. Portative, je dis bien, bricolage, patchwork, avec... Je disais, babélisation, problème qu'il y a. Eh bien, voyez-vous, c'est un peu cela, moi, qui est un peu en jeu dans ce que, alors, si je reviens au mot qui était au début, dans ce que sont les groupes contemporains. Dans ce que, pour ma part, j'appelle les tribus ou les néo-tribus postmodernes. C'est-à-dire qui, je dis bien, je grossis le trait. Mais à mon avis, comme tendance, il y a là quelque chose, si vous voulez, qui ne va plus fonctionner, si je reprends le maître mot que je disais, qui ne va plus fonctionner sur l'autonomie, le sujet est sa propre loi, mais qui va fonctionner sur une sorte d'hétéronomie. Ma loi, c'est l'autre qui me la donne. Et c'est ça, je pense ou j'agis en fonction de ce que l'autre dit. Je n'existe que sous ou par le regard de l'autre. Eh bien, à mon sens, c'est un peu cela qui est à la base même donc, du lien social. Voyez ? Et c'est ça le glissement d'importance. Non plus un lien social, si je me suis bien fait comprendre, reposant sur l'individu à partir d'une raison qu'il maîtrise, mais au contraire, un lien social favorisant une forme de viscosité à partir, bien évidemment, de ces paramètres que j'ai indiqués, imaginaires, ludiques, oniriques. Toute chose, si vous voulez, qui va conforter, moi j'ai dit, une conception plutôt esthétique de la société. Aesthésis, le fait d'éprouver ensemble des émotions, des affects. Et c'est intéressant de voir comment en français revient de plus en plus sous la plume de nombre d'observateurs sociaux des néologismes tels que « émotionnel », affectuel, soyez-y attentifs, et sont des néologismes, mais qui traduisent bien une ambiance générale. Encore une fois, une ambiance du lien social qui n'est plus simplement rationnel, mais intégrant d'autres paramètres. À certaines époques, cela a constitué culture, cela a fait société. Il n'est pas impossible, si vous voulez, que cela fasse, bien évidemment, société pour ce qui concerne la postmodernité. Là, le point d'interrogation reste ouvert. Tout ceci pour dire, si je reprends la notion de saturation, que la fin d'un monde, dis-je, moi, n'est pas la fin du monde. On assiste bien à la saturation d'une manière d'être ensemble. En même temps, on voit émerger donc, d'une manière instituante, sous forme de frémissement, sous forme, encore une fois, de ce qui est instituant, on voit d'autres manières d'être qui se mettent en place. Je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre, bien évidemment, la prolifération, mais en termes presque, comprendre en termes de métastase, de la multiplicité des groupes qui, dans tous les domaines, fragmentent en quelque sorte le corps social homogène, les institutions homogènes, l'État-nation homogène auquel nous étions habitués. Le biologiste Jean Rostand parlait justement de ces contes d'enfants pour adultes. Finalement, on est adulte, mais on a toute une série de contes d'enfants, si vous voulez, dont on se régale, qu'on le veuille ou non, même si nous refusons de croire que ce sont des contes d'enfants. Je pense que parmi ceux-là, Parmi ces contes d'enfants, si vous voulez, pour adultes, il y a justement le mythe du progrès, hein, c'est-à-dire cette espèce de linéarisme qui fait que la société, d'une manière, la civilisation, d'une manière inéluctable, arriverait justement à ce point de civilisation absolue. Et que l'on voit, pour le meilleur et pour le pire, ainsi que je l'ai indiqué, revenir ce que l'on avait cru dépasser. Pour ma part, je me suis employé à montrer comment revenaient ces archaïsmes dans le sens fort du terme arché, ce qui est premier sur le devant de la scène sociale. Dionysos, les tribus, dernièrement le nomadisme, ce sont des archaïsmes. Les groupes, pour moi, c'est du nombre. C'est le retour, encore une fois, de ce que d'une manière un peu béate, peut-être un peu prétentieuse, on avait cru dépasser. Et je crois, voyez-vous, qu'il faut savoir les penser. Il faut savoir, bien sûr, les penser avec générosité, sous peine, en quelque sorte, d'être submergé par eux. Je pense que c'est un peu le défi que nous lance la société en ce nouveau millénaire. Et bien sûr, il faut être à la hauteur de ce défi. Je vous remercie.
Bien, merci. Des micros circulent dans la salle. Si vous souhaitez poser des questions, est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît? Une question ici.
Oui. Je ne suis pas sûr que j'ai encore une question, mais comme vous ouvrez le débat, j'essaye d'y contribuer. À partir de ma propre logique et en essayant de relier aussi les autres leçons qu'on a pu avoir précédemment, notamment avec l'incidence de la technologie sur les transformations sociales, et il apparaît clairement que la modernité telle que vous en avez parlé et l'émergence de l'unité est sous-tendue par l'introduction de l'imprimerie qui permet à chacun, disons, qui permet le déploiement de, et la culture, on va dire, de l'intelligence individuelle. Alors qu'avant, on était dans un contexte où on n'était pas encore au niveau d'intelligence collective, à la limite, il y en avait un qui pensait pour tout le monde. Or, je me dis maintenant, qu'est-ce qui permet la création d'une autre valeur? Alors certes, il y a les révolutions numériques qui permettent là le déploiement d'une intelligence collective, où ce qui compte, ce n'est plus seulement l'individu, mais certainement, comme vous en avez parlé, la relation entre les individus. Alors, je ne sais pas si ça répond, si c'est cohérent avec votre vision. Mais moi, j'arrive pas tout à fait, j'ai pas tout à fait la même lecture, parce qu'il me semble que le tribalisme, tel que vous en avez parlé, m'apparaît comme répondre à une phase de transition à un moment d'incertitude. Parce que si on va vers un déploiement d'intelligence collective, on devrait aller vers plus de fluidité et non pas vers plus de, je ne sais plus le mot que vous utilisez, de viscosité.
Oui, non, viscosité, c'est une manière un peu coquette de parler. Hein. Il faut se faire plaisir parfois. Hein. Donc, oui. C'est une manière, en quelque sorte, de rendre attentif d'une manière caricaturale au fait qu'on n'est plus distinct tout à fait de l'autre, mais on colle un peu à l'autre. Voilà. Alors, cela dit, moi, je vous remercie, je suis attentif à ce que vous dites. Vous comprenez bien, hein, je suis resté presque dans les 40-50 minutes hein, que vous m'avez indiqué. Donc, d'une manière cavalière, je suis obligé de brasser toute une série de problèmes qui sont immenses hein, concernant, pour moi, la postmodernité naissante. Bon. Mais d'un mot, tout de même. Il est vrai que, et là-dessus aussi il y a accord, il est vrai que la technique moderne a contribué en quelque sorte à constituer cette vision de la société rationnelle, ce que je disais, hein, mécanique, ce qui a donné encore une fois le développement technologique aussi dans le sens la société moderne. Bon. Et le développement technologique a contribué fortement à cela. Moi, il me semble, si vous voulez, et là-dessus, je ne suis pas personnellement très compétent, mais dans le centre que je dirige à la Sorbonne sur les, sur le centre d'études sur l'actuel et le quotidien en particulier, il y a tout un groupe qui travaille sur technologie et quotidien, avec des chercheurs d'ailleurs en France, au Brésil, au Japon et en Corée, qui réfléchissent justement sur les incidences de cette technologie sur le quotidien. Et si je le traduis en mes termes, moi je dirais qu'il y a une espèce d'inversion du rôle de la technologie. C'est-à-dire que là où la technologie, à bien des égards, contribué ou était participant de ce processus de séparation, de ce processus purement rationaliste du monde, eh bien, un type d'inversion qui fait que cela, curieusement, conforte la tribu. Bon, c'est Internet, auquel je pense, bien sûr. Hein. Préalablement à Internet, nous avions fait, nous, des études sur le Minitel, le vidéotexte en général. Minitel en France, vidéotexte au Japon. Bien, pour se rendre compte qu'il y avait là quand même quelque chose de curieux, c'est-à-dire que ce faramineux instrument technologique confortait des choses archaïques. La communauté, c'est archaïque. Le fait de chercher l'autre, c'est archaïque. Voyez. Et la définition que j'ai proposée, moi, au débat, à mes chercheurs, c'était ça, hein, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Ce qui fait que, vous voyez, pour moi, ma tribu, ce n'est pas exactement le retour du même. Et je comprends, dans ce sens, je me suis mal fait comprendre, hein, vous voyez, l'aspect clos de la tribu. Hein. Il aurait mieux valu dire néo-tribu ou tribu postmoderne, c'est-à-dire quelque chose qui, tout à la fois, réinvestit cette espèce de vieille attitude qui me pousse à coller à l'autre. Hein. C'est ça, la tribu, dans le fond. Qui me pousse à chercher des formes de solidarité, de générosité, vous voyez, mais grâce au développement technologique. Et là-dessus, tout comme le Minitel a pu l'être, Internet, que fait Internet? Et c'est inquiétant, vous comprenez, c'est quelque chose qui, justement, va favoriser la relation, va favoriser des réseaux, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des forums de tchatch, il y a de la philosophie, il y a de la religion, il y a la pédophilie, il y a la pornographie, etc., hein, tout à l'avenant. Moi, ce n'est pas mon propos de trier là-dedans. Hein. Mais disons que c'est un instrument qui, de ce point de vue, va plutôt conforter les réseaux. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, va conforter ce que j'appelle tribu. Mais avec la nuance que je viens de dire, hein, c'est vrai que ce n'est pas la tribu stricto sensu qui était intangible dans le temps, dans la durée, etc. Hein. Mais je voulais insister sur le côté sentiment d'appartenance en proposant ce terme. Et là, il y a un phénomène curieux. C'est pour ça que je considère qu'il y a une vraie inversion de polarité. Vous savez, c'est Max Weber, justement, qui disait que, qui avait fait un parallèle étroit et intéressant au XIXe siècle en montrant que le désenchantement du, enfin, la rationalisation généralisée de l'existence avait abouti au désenchantement du monde. Stricto sensu. Et rationalisation, justement, par le biais de la technologie et du développement scientifique. Et moi, j'ai proposé un peu l'inverse, enfin, en jouant sur les mots, en disant que, manifestement, on assistait contemporainement à une forme de réenchantement du monde. Comment par les films de gosses, les films d'enfants, comment par les vidéoclips, comment par un nombre de succès filmiques, je pense à la Guerre des Étoiles, par exemple, on voit réinvestir des figures antiques avec le rayon laser. Vous voyez ? Et dans le fond, c'est une métaphore, mais prenez cela et essayez de l'appliquer en d'autres domaines, on voit bien comment il y a cette synergie de l'archaïque et du développement technologique. Vous voyez, bon, c'est ça. Hein. Alors, mais avec des nuances, si j'avais eu le temps, j'aurais précisé en quel sens j'entendais tribu, non pas quelque chose de stable, d'intangible, si vous voulez, mais au contraire, c'est quelque chose qui me pousse à coller à l'autre en des domaines divers, et là, je crois que la technologie y contribue. C'est curieux, mais y contribue. Il y a un vrai réenchantement du monde contemporainement.
Madame, vous pouvez lever la main. Sinon.
Bonjour monsieur. J'étais un petit peu étonnée que vous ne parliez pas de la famille. Parce que la famille, c'est le premier groupe social. Vous avez beaucoup parlé de Freud, mais vous en avez parlé d'une façon très souterraine, en aphréatique. Et je crois que le plus grand sociologue, c'est Freud. Parce qu'il a terminé son œuvre en disant que l'avenir de la psychanalyse, ce n'était pas le divan, c'était le social. C'était l'école, c'était les institutions, c'était tout ce que vous avez dit. Et il avait en effet remarqué que l'homme était un animal social. Il a aussi écrit un livre, L'inquiétante étrangeté, qui faisait allusion évidemment au fantasme. Le fantasme, je crois que c'est vraiment l'idée de Freud, qui est l'imaginaire, le symbolique et le réel. Alors, je pense que votre postmodernité vient des idées de Freud, et c'est bien exprimé en 68... avec cette révolution copernicienne, comme l'a fait Freud, mort de la famille, comme l'a écrit David Cooper, le psychiatre de 68. Mais les racines familiales restent toujours permanentes. Et avec cette inquiétante étrangeté, les gens, après cette révolution de Freud ont essayé de rechercher leur vraie identité imaginaire et symbolique par l'intermédiaire des groupes. Mais évidemment, c'est très dangereux, parce que les idées de Cooper ont été très critiquées, bien qu'il soit d'une intelligence extraordinaire. Alors, on s'est rabattu sur un cartésianisme effréné. Et en ce moment, on est dans une époque, vous venez de le dire, d'un cartésianisme épuisant, fatigant, déprimant.
Non, mais je n'ai pas tout à fait dit ça.
Madame, et vous avez dit, on retourne aux poétiques, retourne...
Madame, je me suis mal fait comprendre, alors.
Alors voilà, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation?
Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, après tout, ça ne m'empêchera pas de bien manger tout à l'heure, et vous aussi, j'espère. J'ai un rendez-vous. Écoutez, non, c'est pas du tout ça que j'ai dit, non. En tout cas, j'ai pas d'appétence pour Freud. J'ai pas de compétences et j'ai pas d'appétence. Non, excusez-moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Non, dit d'un mot, tout d'abord, Freud, ce serait l'objet de notre débat, et puis je suppose que nombre de mes collègues ici en ont parlé et en parleront, mais de mon point de vue, Freud est, je l'ai dit, pour moi, un des éléments de la modernité. Le freudisme, c'est un des grands discours de référence de la modernité, c'est-à-dire essentiellement quelque chose qui repose, dans le fond, sur l'individu rationnel. C'est paradoxal ce que je dis, hein. Mais en effet, il reconnaît l'inconscient, mais un peu, il faut vider la poubelle. Hein, et il faut assez rationnellement vider la poubelle de l'inconscient. Alors que d'autres penseurs, moi je suis beaucoup plus intéressé, je le dis simplement, par Jung, lui a une autre conception de l'inconscient qui justement ne repose tout à la fois pas sur l'individu et puis justement en gardant en quelque sorte la dynamique de cet inconscient. Donc c'est pour dire que, à mon avis, si vous voulez, la perspective freudienne reste une perspective moderne, mais d'ailleurs c'est pas un jugement, hein, c'est une perspective moderne. Et je discutais cet après-midi avec une de mes collègues qui travaille justement sur psychanalyse et société et qui, tout en restant, elle, stricto sensu freudienne, montrait comment il était nécessaire, bien évidemment, de repenser les grandes catégories freudiennes parce que la vie sociale avait évolué. Hein, voilà. Alors, mais ça se discute, hein, je dis bien sincèrement, et ce n'était pas de la polémique, ça se discute. Hein, c'est-à-dire que, à titre personnel, moi je considère que ces grandes catégories sont des catégories qui ne sont plus pertinentes, pour le dire simplement, et qu'il vaut mieux trouver, même si on prend certains instruments, certains termes freudiens, il vaut mieux trouver d'autres termes qui rendent davantage compte de ce qui est en évolution pour moi dans la postmodernité. Et alors, dans cette perspective, ce n'est pas non plus de ma compétence, et je crois que la semaine prochaine, vous avez des conférences en ce sens, certainement passionnantes, je dois vous avouer que, pour ce qui me concerne, je crois que la famille aussi est une valeur saturée, je le regrette de le dire, mais à bien des égards, si vous voulez, la famille n'est qu'une des formes particulières que l'on a cru éternelle, mais dont on voit la naissance au XIXe siècle, justement de la gestion du sexe, la gestion légitime du siècle. Chaque société se pose ce problème, hein, comment je gère le sexe, la parole, la mort, les biens. Et il faut donc trouver une gestion de ce sexe. Alors, moi, ce que je peux vous dire, et j'en dirai pas plus là-dessus, c'est que ce qu'on appelle la famille stricto sensu, telle qu'elle a prévalu à partir du XIXe siècle, la famille mononucléaire, c'est une gestion du sexe qui est spécifique. Et que un homme, une femme, deux ou trois enfants, et contemporainement, on voit bien de toutes parts la porosité de cette institution. On voit bien le fait qu'il y a une multiplicité, je sais pas, le fait qu'il y ait des familles élargies, qu'il y ait des fratries de divers lits, le fait qu'il y ait une multiplicité d'expressions sexuelles qui ne se retrouvent pas dans la gestion simple de la famille, et tout à l'avenant. Donc, ce pour dire, moi je crois que nous sommes là, de ce point de vue, dans une période véritablement de transformation de fond, si vous voulez. Il est difficile, à mon sens, d'indiquer dans ce grouillement de culture quelle va être la gestion du sexe qui va succéder à la famille, mais en tout cas, en tant qu'institution sociale, pour moi, c'est une institution sociale très fragile. Un de mes collègues à la Sorbonne, qui a été un des promoteurs, à mon sens, en la matière, Louis Roussel, avait à lancer cette expression qui me paraissait intéressante, et pourtant ce n'était pas du tout un révolutionnaire, il a lancé cette expression de famille incertaine. Et lui, d'une manière assez classique, d'ailleurs, et même pas au travers des métaphores qui sont les miennes, mais d'une manière assez classique, il montrait justement comment cette institution familiale, si vous voulez, je dis bien, je vais exprès de dire, qui avait a eu le monopole de la gestion du sexe durant la modernité, était en train de laisser la place à autre chose. Il disait famille incertaine. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire. Je dis bien, ce n'est pas de ma compétence. Mais je pense qu'on retrouve, là encore, le familialisme tribal. Hein, la multiplicité des partenaires sexuels, les fratries multiples et diverses qui peuvent convivre en des lieux divers, en un même lieu. Et l'on voit à cet égard, d'ailleurs, d'une manière anecdotique, nombre de films, par exemple, hein, qui font état justement de cette nouvelle configuration, de cette nébuleuse-là. Voilà ce que je pouvais dire. Mais vous aurez, je crois, d'occasion de parler de la famille.
Oui. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre démonstration, que j'ai trouvée très intéressante, même si je n'y adhère pas complètement. Alors, dans la démonstration, ce qui me gêne notamment, c'est lorsque vous parlez de l'État-nation. Alors, je suis peut-être de la vieille école, j'ai une perception de la société un peu weberienne où il y a l'individu et son rapport avec l'État-nation. Et notamment, j'ai l'impression que l'État-nation français est toujours très présent et qu'on est en train de construire un État-nation européen. Et donc, comment vous expliqueriez qu'en fait, dans le monde, il y a quand même de plus en plus d'États-nations ?
Non, là, je...
C'est le chiffre des Nations Unies.
Oui. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus encore. Attendez, je vais essayer de vous répondre. Tout d'abord, moi, je comprenez-moi bien, hein, je n'ai pas dit mes préférences. Moi, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, je ne faisais pas état forcément de mes convictions. Hein, je ne dis pas si l'État-nation est bien ou pas. Je dis uniquement qu'on voit, les historiens s'accordent pour voir au milieu du siècle dernier, les fameuses révolutions de 1848, si vous voulez, voir l'émergence des nationalismes stricto sensu. Hein, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, on va rassembler politiquement des individus disparates qui ont des coutumes, des langues parfois disparates, on va les rassembler arbitrairement. La France, je dis bien, en est un exemple, hein, où on voit comment les diverses langues régionales, les divers parlements, les diverses coutumes, les diverses manières de s'habiller, de penser, sont peu à peu passent au rouleau compresseur pour pouvoir se constituer, hein, sous le coup des hussards de la République, le clergé noir de l'éducation nationale, un mode de pensée et un mode d'être qui va être homogène. Mais on le retrouve un peu partout. Il y a contamination de cette idée de l'État-nation. Bon. Il semblerait, et là-dessus, moi je lisais encore hier un article ou avant-hier montrant comment les politologues s'inquiètent justement, ou les géopolitiques s'inquiètent du fait que maintenant tout un chacun va demander la constitution en tant que nation. C'est pour ça que je disais qu'il va y en avoir beaucoup plus aux Nations Unies, hein. C'est-à-dire le fait que, à bien des égards, la Padanie va le demander, comme la Slovaquie, comme le Québec, comme Rio Grande do Sul au Brésil, comme la Corse ou la Bretagne chez nous, et tout à l'avenant. Hein. Et il est intéressant de voir que la tendance serait une tendance qui, en quelque sorte, ne va plus se reconnaître dans ce plus petit dénominateur commun. Qu'après, donc, nation, oui. État-nation, pas forcément. Alors, qu'il y ait l'émergence, encore une fois, d'une manière sanglante ou d'une manière policée de ces esprits nationaux, ça c'est certain. Mais, à mon avis, ce sont des nations qui ne vont plus se reconnaître dans l'homogénéité de l'État-nation. Alors, à ce moment-là, se présente une autre figure qui a déjà existé. Parce que j'ai tendance à croire que, à l'opposé de nos prétentions, hein, ce que je disais in fine, de, un peu comme cela, où il y aurait un linéarisme historique, on risque de voir des rebroussements de l'histoire. Je n'ose pas dire des retours en arrière, mais en tout cas, hein, si je reprends le mot des psychologues, des régrédiences, qui ne sont pas simples régressions. Et en la matière, appliquée à votre propos, je me demande si, comme rebroussement, nous n'assistons pas au retour de l'idée impériale. Alors, l'idée impériale, un peu telle que pouvait l'être au Moyen-Âge, c'est pour ça que je fais référence à cela, l'empire, un empire européen, c'est-à-dire, finalement, le fait qu'il y ait une entité assez vague, vaste, et à l'intérieur de ces entités, des petites baronnies, qui pourront être des villes, des régions, des, vous voyez, des cantons, peu importe en la matière, ou peut-être même un État, parfois. Mais, à mon sens, c'est plutôt quelque chose d'étonnant. Si on avait le temps, je vous donnerais alors là des exemples très précis. Voyant se constituer, je pense, moi, un empire européen, on peut l'espérer, comme il y a un empire nord-américain, un empire sud-américain, un empire asiatique. Vous voyez, des choses dans ce genre, c'est-à-dire entités vagues et vastes, liées, on peut l'espérer, par la culture plus que par l'économie, ou en tout le moins, et l'un et l'autre. Et puis, à l'intérieur de cette entité vague et vaste, eh bien, quelque chose qui va reposer sur le sentiment d'appartenance. La langue que je partage, une culture que je partage, quelque chose qui, vous voyez, à bien des égards, n'est pas simplement rationnel comme l'État-nation, mais est beaucoup plus émotionnel. Moi, ce serait plutôt cela, la tendance. Et on voit bien comment, de diverses manières, eh bien, il y a, si on prend l'exemple français, court-circuit de la structure pyramidale. Comment, eh bien, Lyon va établir ferroviairement, par moyen de transport avion, par d'autres moyens, des relations avec Barcelone, Milan, Cologne et Francfort, sans passer par la centralité parisienne. Et on pourrait le voir à des quantités de niveaux au-delà de la simple métaphore que je dis. Donc, vous voyez, ce serait plutôt, en tout cas, moi, mon hypothèse. Hein, c'est-à-dire, l'État-nation était quelque chose qui était structuré sur une idée de assez raisonnable et rationnelle de l'être ensemble, alors que l'idée impériale rassemblant des petites entités reposant plutôt sur un sentiment d'appartenance, j'ai bien dit, culturelle, religieuse et tout à l'avenant, et linguistique, bien évidemment. Et on ne peut pas aller à contre-courant. C'est en ce sens, si vous voulez, que on peut continuer des incantations contre le retour des langues régionales, on peut faire de l'incantation contre la réaffirmation, si vous voulez, des diverses formes de spécificité localiste, mais il me semble que la grande tendance va plutôt en ce sens-là. En tout cas, sans que j'essaie ici de dire si cela me paraît être mieux ou pire, on a tout de même beaucoup d'indices qui vont en ce sens.
Une dernière question.
Oui, je voulais vous parler des bases biologiques, finalement, de ce que vous avez émis. C'est-à-dire que les neurosciences ont étudié jusqu'à présent surtout le cognitif. Après Descartes, d'ailleurs, qui avait parlé de la raison. Et il y a eu un livre qui a fait peut-être beaucoup de bruit, mais qui n'en a pas fait assez, semble-t-il. C'est le bouquin de Damasio qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Qu'est-ce que dit Damasio ? De façon simplifiée, il dit qu'à côté de la raison, il y a l'affectif. Et l'affectif, c'est vrai, n'est pas tellement étudié, avec des exceptions, comme Carlick, nous avons entendu il y a quelques conférences, comme Jean-Didier Vincent, etc. Mais en général, c'est le cognitif qui est plus étudié, parce que, justement, il correspond à la raison, en gros. Alors, quant à l'affectif, il y a une chose qui me paraît importante, et je n'ai pas l'impression que nous soyons d'accord. Par contre, nous soyons d'accord sur ce point. Parce que moi, pour l'affectif, il y a une question de taille. On peut avoir de l'affectif, effectivement, par des relations, mais des relations de proximité. Proximité dans tous les domaines, langue, etc., tout ce que vous avez évoqué, mais relations de proximité. Je ne crois pas du tout à Internet pour créer des relations d'affectivité, pour la bonne raison que c'est beaucoup trop loin. Et il faudrait vraiment que les gens, peut-être que ça peut agglomérer des gens, mais je ne pense pas que Internet, surtout si on zappe, que comme à la télévision, je ne pense pas que ça crée des choses solides au point de vue affectif. Quant à l'idée, il y a eu deux guerres mondiales, et donc on a vu la non-valeur des idéologies par rapport justement à l'affectif, parce que ça ne correspondait en fait à rien d'affectivité proximale, c'est-à-dire qu'on a bâti des idéologies sans se rendre compte que, plutôt en voulant mettre en avant les nations, qui sont quand même de grands ensembles. On ne peut pas être affectif vis-à-vis de toute une nation, on l'a cru, et c'est ça a entraîné les guerres mondiales d'ailleurs, que nous connaissons, mais je crois qu'il faut, par contre, on a besoin d'affectif proximal. C'est-à-dire, tout à l'heure, madame a parlé de la famille, c'est peut-être, il n'y a pas que la famille, il y a d'autres activités, affectivités proximales, mais je crois que l'importance, et d'ailleurs, le mot que vous employez souvent l'indique, la tribu, c'est-à-dire finalement le groupe assez petit de taille, là, l'affectif peut se manifester.
Je vous remercie. Écoutez, tout d'abord, je vais être mesuré un accord, un désaccord et puis une synthèse. Vous voyez, je serai classique jusqu'au bout en la matière. L'accord, oui, bien sûr. Moi, si vous voulez, c'est un peu ce que, dans ma partie, j'ai essayé de montrer, d'ailleurs, en sociologie, en montrant que, à côté de la prévalence du cognitif, et j'avais employé ce terme qui a été la grande idée moderne, eh bien, on voyait revenir le retour du sensible sous ses diverses modulations, et même très empiriquement, le retour du corps. Moi, j'ai consacré un livre, justement, en montrant l'importance du corps, l'exacerbation du corps propre, comment cela pouvait conforter le corps social, mais d'une manière beaucoup plus large, si vous voulez, les sens, hein, prenons-le dans le sens simple du terme, en insistant sur le fait que, moi je pense que c'est même antérieur, j'ai pas pu ici le dire, hein, mais je crois que c'est même antérieur à Descartes. Pour tout vous dire, je pense que l'origine un peu, c'est Saint-Augustin. Et c'est, si vous voulez, cette prévalence du cognitif sur le vécu. C'est ce qui fait qu'on va privilégier le cerveau, tiens-toi droit. Ce qui fait qu'en quelque sorte, dans l'animal humain, on va mettre l'accent justement sur ce qui est le sommet de cet animal humain, c'est-à-dire bien évidemment le cerveau. Et on voit à partir de là, avec la conscience cartésienne, mais on peut en retrouver d'autres avant et d'autres après, bien sûr, on voit bien comment la tradition qui est la nôtre, disons la tradition occidentale, pour le dire simplement, a été une tradition qui va minoriser le vécu, l'expérience et les sens. Bon. Alors, juste par parenthèse, et c'est mon désaccord, en tout cas, je ne peux pas ici le développer. Il me semble, si vous voulez, que le problème d'Internet est plus complexe. C'est-à-dire que, a priori, bien sûr, vous avez raison en disant qu'il y a quelque chose qui est trop lointain, mais de fait, il y a une forme de proxémie qui se crée, même si c'est une proxémie, je le reconnais, symbolique, fantasmatique ou fantaisiste. Mais la fantaisie, c'est aussi du sens. Hein. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, il me paraît que le virtuel, dans le fond, crée une forme de communauté. Je vous donne ce petit exemple, moi, qui me paraît, bon, qui vaut ce qui vaut. Quand au 2e, 3e siècle de notre ère émergent ces petites tribus que sont les sectes chrétiennes, dans le grand empire romain, ce ne sont que des petites sectes, disons-le, hein, parsemées ici ou là. En tant que telles, elles sont tout à fait fragmentées et on pourrait les comparer à ce que j'appelle, moi, les tribus postmodernes. Et je trouve d'ailleurs que le 2e, 3e siècle de notre ère est, à bien des égards, très intéressant pour comprendre le nôtre. Et que font ces tribus? Moi, ce que je dis, mais je fais exprès, je pèse ici mes mots, elles sécrètent une doctrine qui est la doctrine de la communion des saints. Qu'est-ce que la communion des saints? C'est-à-dire le fait que, dans le fond, moi qui suis à Milan, moi qui suis à Lyon, moi qui suis à Narbonne ou à Rome, je me sens uni aux saints, aux élus, donc qui sont ici ou là dans d'autres de ces villes. Et cette sécrétion de la communion des saints va conforter l'Église et va donner la civilisation que l'on sait, la civilisation chrétienne. Eh bien, moi, je dirais qu'Internet, c'est un peu la même chose. J'exagère mon propos, mais vous voyez, pour faire comprendre, c'est-à-dire qu'à bien des égards, il y a là un type de liaison qui se fait, un peu à la manière de la communion des saints. C'est fantasmatique, c'est une création, una cosa mentale, mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, que cette espèce de sécrétion peut faire une forme d'union. Vous voyez, c'est en ce sens que je demande qu'on regarde un peu plus près, parce que à bien des égards, il y a une proxémie qui peut s'établir au-delà de la distance. Et d'ailleurs, parfois, cela a été montré, engendre et peut susciter des relations réelles, hein, des gens qui après veulent ça. Alors voilà un peu, hein, si vous voulez. Bien évidemment, moi je crois que, qu'on le veuille ou non, et cela il faut le penser, moi je le dis à mes collègues, hein, je considère que les intellectuels, les sociologues en particulier, laissent trop de côté la partie sensible, les sens, le corps sous ses diverses modulations, parce qu'il y a vraiment là quelque chose qui est en train de faire le corps social. Je dis bien, et que la prise en compte des sens me paraît importante. De ce point de vue, pour tout dire, moi j'ai écrit un livre justement il y a quelques années qui s'appelait « Éloge de la raison sensible ». voyez. Et dans cet éloge de la raison sensible, j'essayais très précisément, là exactement, voyez ce propos, j'essayais de faire la conjonction entre la raison et les sens. Là où il y avait eu des dichotomies, des séparations, des coupures, des choses comme cela très strictes qui avaient fondé en quelque sorte la modernité, moi je montrais qu'il pouvait y avoir, à bien des égards justement, une synergie de la raison et des sens. Donc vous voyez, ne pas faire du rationalisme pur, c'est ce qui nous a en quelque sorte rendu le monde invivable dans lequel nous sommes, ne pas tomber par réaction dans l'irrationalisme qui serait non moins nocif, à bien des égards, mais trouver, j'oserais dire, cette voie moyenne, oui, une pensée hauturière, une pensée d'une ligne de crête qui, en quelque sorte, montre que, à côté de ce qui nous caractérise en tant qu'animal humain comme étant la raison, il y a ce que j'appelais, moi, ces paramètres du ludique, de l'onirique et autres, et les sens en général. Et je pense que c'est, en quelque sorte, cette conjonction, pour ma part, que j'ai appelée la raison sensible, qui tient les deux bouts de la chaîne, si je parle un peu comme Bossuet. En tout cas, c'est un enjeu qui est nécessaire, c'est un enjeu qui est important, c'est un défi, comme je le disais, qui nous est lancé, parce que, en particulier, les pratiques juvéniles prennent en charge les sens et nous demandent, bien évidemment, d'arriver à penser cela. Pour tout dire, et ça sera mon dernier mot, il me paraît que c'est là, véritablement, le vrai humanisme. Celui qui est capable de prendre, je dis, en compte l'humus dans l'humain, hein, c'est-à-dire cette boue dont nous sommes pétris. Et que c'est, en quelque sorte, si on sait prendre en compte cet humus dans l'humain, le sens et la raison, que l'on pourra avoir, encore une fois, une vision équilibrée de nous et du monde. Mais cela nécessite, bien sûr, une autre attitude intellectuelle qui n'est plus une attitude prétentieuse. Moi, je dis qu'il est une attitude qui, si je joue ici sur la proximité sémantique, a l'humilité de reconnaître l'humus dans l'humain. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais faire et ce à quoi j'aimerais participer.
Je vous remercie.